Vous êtes sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette croisée des chemins avec une personnalité, ses succès, sa célébrité, tout ce qui brille. Et puis derrière le rideau, les fractures, les interrogations, ces doutes qui finissent par vous envahir. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire ne se posait a priori aucune question. Il avançait plutôt à la hussarde dans une vie de baroudeur, de séducteur, d'ombre des services secrets, difficile de savoir quel était le vrai visage de cet aventurier de la littérature et de l'édition, un corsaire à qui tout réussissait mais qui se sentait rejeté et allait finir seul. Nous parlerons de cette trajectoire en fin d'émission avec notre invité Benoît-Franck Balm, SAS, son Altesse Sérénissime Gérard de Villiers, c'est tout de suite sur RTL.
Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Gérard de Villiers n'a jamais été l'auteur à succès de SAS. Cette seule vie ne lui suffisait pas. Il emprunta donc celle des autres. Baroudeur, espion, séducteur, et devint tous ces personnages à la fois, quitte à se fabriquer un destin sur mesure où le mensonge serait érigé en œuvre d'art. Jacques Gérard Marie Brice est né à Paris le 8 décembre 1929. Quatre prénoms, mais aucun nom inscrit à l'état civil. Fils du comédien Jacques Deval, 34 ans, à l'époque aussi célèbre que Sacha Guitry, et de Valentine Adam de Villiers, 37 ans, aristocrate des Argentés. Elle n'est pas mariée et n'a pas voulu reconnaître cet enfant. Elle lui donnera son nom que 3 ans plus tard. Ce fils s'appellera alors Gérard Adam de Villiers, pas encore entré dans la vie, mais déjà né 2 fois. Gérard de Villiers va ainsi passer le reste de son existence à naître et à renaître, histoire de fuir en premier lieu cette enfance pauvre qui fait de lui un exclu. Je me sentais seul dans un monde hostile. Pour échapper à cette réalité, je rêvais beaucoup. Je me racontais des histoires, dira-t-il. À Pau, où sa mère est venue vivre sous l'occupation, Gérard de Villiers est inscrit au collège de l'Immaculée Conception. Bon élève, mais parfaitement indiscipliné. Son bac en poche, il traîne dans les rues de la ville. Les petites magouilles de l'après-guerre, il vend des cigarettes espagnoles de contrebande, écluse de faux lingots d'or, séduit les filles et parade même avec un pistolet accroché à la ceinture. Le cœur de Villiers balance alors entre un destin de délinquant, un engagement pour l'Indochine ou la conquête de Paris pour y tenter sa chance. C'est Paris qu'il va choisir.
Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ouais, ça fait mal. Les coups, à qui apprennent à vivre, oh oui, ouais, ça fait mal. Avant de faire un homme d'un tout petit enfant, il en faudra combien pour qu'il devienne un grand? Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups de l'amour qui s'en va, les coups qui en font un soldat, les coups à quand ils vous arrivent. Oh oui, ouais, ça fait mal. Les coups à qui appellent à vivre. Oh oui, ouais, ça fait mal. On n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Et puis ce qui voudrait pouvoir un jour chaos. Oh oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Plus les coups sont durs et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups, quand ils vous arrivent. Les coups, ouais, ça fait mal. Ouais, les coups, ah, 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 ah.
Les coups, Johnny Hallyday bien sûr, dans ce confidentiel Gérard de Villiers. On est ensemble jusqu'à 14h30 sur RTL.
RTL.
Dans un instant, retour de confidentiel sur RTL. Confidentiel Gérard de Villiers.
Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Gérard de Villiers, 20 ans, est dans la capitale un Rastignac sans envergure. Il a retrouvé son père, Jacques Deval, pour qui il ne voue aucune affection particulière, mais qui lui donne un peu d'argent. Il étudie vaguement le droit à Assas, court surtout les filles et fréquente les boîtes de jazz, le vieux colombier, le tabou, la rose rouge. Il gagne quelques francs en ramassant de vieux papiers et en écrivant quelques articles pour un tout nouveau journal d'extrême droite, Rivarol. Une étiquette qui ne va jamais cesser de lui coller à la peau. « Cela ne me choquait pas, j'étais né avec un tropisme de droite », dira-t-il, revendiquant encore son goût pour les armes et le respect de la tenue militaire.
Just like a boomerang.
Gérard de Villiers ne sera pas soldat, mais journaliste. Le journal Paris Jour, alors concurrent du tout-puissant François, remarque ce garçon sûr de lui qui n'a peur de rien. On l'envoie en Tunisie pour un grand reportage sur la fin de la colonisation, sans savoir que ce voyage va lui donner un avant-goût des services secrets. Sur le point d'embarquer, il est reçu au ministère de la Défense, qui lui propose de profiter de son séjour pour ramener des informations sur un groupuscule anti-indépendantiste, la Main Rouge. Flatté et honoré, le jeune de Villiers accepte, au nom de la France, de jouer les espions. La Main Rouge le démasquera et essaiera de l'assassiner. Il rentrera entier, in extremis, à Paris. J'avais été fasciné par les services secrets. C'est à ce moment-là que s'est décidée ma future carrière de chroniqueur du monde parallèle, dira Gérard de Villiers. Il figurera un jour sur la liste des honorables correspondants des services français, ces hommes et ces femmes qui, à la faveur d'un voyage, glanent ça et là des informations. Gérard de Villiers a des rêves d'agent secret, mais pour le moment, il est reporter à France Dimanche, chargé de traquer les célébrités et les têtes couronnées. Ni principe, ni scrupule. Tout est bon pour lui pour décrocher un scoop. Il planque 8 jours en Suède dans une Mercedes pour essayer d'apercevoir la divine Greta Garbo, recluse depuis ses adieux au cinéma. Gérard de Villiers, arrogant, brutal, prétentieux, se moque des politesses. Mylène de Mongeau, espoir du cinéma français, alors en haut de l'affiche avec les sorcières de Salem, le met à la porte à cause de sa grossièreté. De Villiers lui enverra une corbeille de fleurs pour s'excuser. Dans une poignée d'années, il sera aussi connu que tous ces acteurs et actrices qu'il pourchasse, en prenant tout simplement la place du romancier qui avait créé le plus célèbre des espions. Let Our Love Go, les Suprêmes, dans ce Confidentiel Gérard de Villiers. A tout de suite sur RTL.
Dans un instant, retour de Confidentiel sur RTL. Confidentiel, Gérard de Villiers, avec Jean-Alphonse Richard.
Gérard de Villiers approche la trentaine. À l'aube des années 60, ce chien fou du journalisme s'est marié. Une première épouse, 10 ans de moins que lui. Elle s'appelle Olga et travaille dans un cabinet d'assurance. Il l'a rencontrée au Club Saint-Germain, 3 ans, jour pour jour après le mariage, le 18 juin 1959, naît un garçon, Michel, qu'il ne verra pas grandir. L'année suivante, le couple divorce. Olga n'a pas supporté la double vie, même pas cachée, de son mari, un insatiable coureur de jupons, passant d'une chanteuse iranienne à une pharmacienne rencontrée à Tunis, et un fêtard invétéré qui passe ses nuits à faire la nouba dans les clubs parisiens et les boîtes de Saint-Tropez, où il ne lâche pas d'une semelle Brigitte Bardot. Le moindre écho sur bébé vaut alors de l'or. Rien n'arrête Gérard de Villiers, reporter passé maître dans l'art de décrocher des exclusivités. Le journaliste adore faire les gros titres, même s'il ne repose que sur du vent. À la cour du Shah d'Iran, qu'il finira par connaître par cœur, il a une technique parfaite pour obtenir une interview. Il pose une banale question au monarque, puis invente la suite avec ce titre « Le Shah m'a dit ». Gérard de Villiers est aussi l'homme qui a transformé la vie de Sheila en enfer, propageant la rumeur selon laquelle elle serait un homme. Quand il a rencontré la chanteuse, 18 ans, cette dernière a eu le malheur d'indiquer qu'elle souffrait d'hémorragie et prenait un traitement hormonal qui risquait de rendre sa voix plus grave. En plaisantant, elle a ajouté « Je ferai tout pour ne pas devenir un homme ». Le journal va titrer « Sheila risque de devenir un homme ». La chanteuse passera des jours à pleurer, enfermée chez ses parents. La rumeur ne la lâchera jamais. Gérard de Villiers ne s'excusera pas, quitte même à continuer un brin sadique à entretenir le doute. À la mort de l'écrivain, Sheila déclarera « Je ne lui dis pas paix à son âme parce que, à mon avis, il va direct en enfer. »
Me dit que tu mens.
En cet été 1964, Gérard de Villiers, 35 ans, voit disparaître Ian Fleming, le père de James Bond. L'écrivain commençait à avoir des millions de lecteurs et son héros, 007, venait de triompher au cinéma. Les romans d'espionnage sont une mine de diamants et la place est à prendre. L'éditeur Plomb cherche un héritier à Fleming et voit en ce de Villiers, capable d'inventer n'importe quelle histoire, l'homme idéal. La proposition amuse le journaliste qui imagine aussitôt son personnage, un savant mélange de trois de ses rencontres, un marchand d'armes autrichien, un baron allemand aimant les femmes et engloutissant sa fortune dans le château familial, et le majordome d'Hitler rencontré pour une interview, un certain Heinz Linge. Le héros s'appellera Malcolinge, aristocrate autrichien réfugié dans sa forteresse, espion lié à la CIA américaine, entièrement dévoué à la lutte contre les communistes, séducteur aux yeux d'or, mais aussi brute épaisse. Son Altesse Sérénissime, SAS, le prince Malco, connaît immédiatement le succès. SAS à Istanbul, le tout premier des 200 SAS édités, se vend à plus de 20 000 exemplaires.
Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Pour être un agent
agent secret. Les filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos.
L'agent secret, une chanson de Pétula Clark dans ce confidentiel Gérard de Villiers. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RTL.
RTL.
Dans un instant, retour de confidentiel sur RTL.
RTL.
Confidentiel Gérard de Villiers.
Jean-Alphonse Richard.
En dépit du succès, Gérard de Villiers ne change pas tout de suite de vie. Il continue à voyager pour France Dimanche, à passer ses nuits dans les clubs et les bars d'hôtel, à multiplier les liaisons, même s'il jette son dévolu sur Annick. Coup de foudre respectif, et comme dans les meilleurs des SAS, mariage au bout du monde, dans la petite ville de Ploughkeepsie, au nord de New York. Lune de miel à Las Vegas, où les amoureux logent au Flamingo Hotel. Autant de décors et de rencontres qui alimenteront les futurs SAS. Son propre témoin de mariage, un certain Sevchenko, sera un jour recyclé, un agent du KGB. Quant au bled paumé de Poughkeepsie, il servira de pied-à-terre américain pour son héros, le prince Malco.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.
Dans les années qui suivent, SAS bat tous les records de vente. Littérature d'action mélangeant fiction et réalité, secret d'État et un puissant parfum d'érotisme. 3 ans après le lancement de la série, les couvertures des ouvrages suffisent à elles seules à avoir du succès auprès des hommes mariés et des adolescents qui découvrent la vie. Les jaquettes de SAS se retrouvent peuplées de filles légèrement vêtues, aux poses évocatrices et le plus souvent armées. Un défilé de mannequins au corsage échancré. De Villiers fait poser sa propre épouse, Annick, en manteau de fourrure. Il choisit lui-même les modèles et l'arsenal qui va avec, pistolets et mitraillettes achetées dans une armurerie parisienne. La couverture inquiétante de l'ange de Montevideo bat les records, tout comme Panique au Zaïre, où la reine du X, Brigitte Lahaie, pose alanguie sur un lit de soie rouge, photographiée par le pape du porno chic, Helmut Newton. Voici donc les promises du prince Malco, macho irrespectueux, dont Gérard de Villiers dira dans ses mémoires « J'ai décidé que mon héros se conduirait avec les femmes comme un individu normalement constitué ». Avec des ventes atteignant les 100 000 exemplaires par numéro, Gérard de Villiers peut parader. Il gagne beaucoup d'argent après avoir trouvé la recette du succès. Mais malgré cette réussite, la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Trop sulfureux, trop extrémiste, trop à droite, trop solitaire. Enfant, il était déjà exclu, il le reste. Mais plutôt mourir qu'avouer son amertume et sa frustration, il faudra qu'il attende longtemps, presque arrivé à sa dernière heure, pour goûter enfin à la consécration et aux honneurs. En ces années 70-80, Gérard de Villiers est le roi de l'édition. Pas moins de 3 SAS par an. Chaque nouveau titre est tiré à plus de 300 000 exemplaires. 10% du chiffre d'affaires de la Maison Plomb. Bientôt 30% à lui tout seul de la littérature de divertissement en France. Le père de Malco roule en Rolls-Royce Silver Cloud, la même que John Lennon, et habite les beaux quartiers de la capitale. Au 44, puis au 46 de l'avenue Foch, où il a pour illustre voisin Grâce de Monaco, la Calas et son amant Aristote Onassis, ou le président du Zaïre Mobutu. De Villiers est le nouveau riche de la littérature populaire française. Pour alimenter ses histoires, il court le monde ou le fait arpenter par une poignée d'amis reporters, photographes ou hommes d'affaires qui le fournissent en idées, anecdotes et descriptions parfaitement fidèles des palais, palaces, bouges et lupanards.
Exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was.
Babouchka, l'un des grands tubes de Kate Bush, dans ce confidentiel consacré aujourd'hui à Gérard de Villiers, un destin qui va faire de lui un écrivain riche, mais un homme seul.
Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
Gérard de Villiers suit les soubresauts de la planète et les précède fréquemment. Suffisamment visionnaire pour anticiper la marche de l'histoire, sentir l'air du temps et abreuver de précieuses informations les patrons des services français avec qui il déjeune régulièrement. En dépit de ce don qui sera un jour qualifié d'extra-lucide, l'écrivain n'entre toujours pas dans les canons de la littérature française. Il n'est pas un intellectuel, mais un anticommuniste virulent, un bouffeur de gauchistes, la bête noire des féministes, phallocrate assumé, un homme d'argent, jet-setter en blazer et pochette, qui fait scandale sur les plateaux télé et se fait servir le caviar à la louche. Gérard de Villiers a 50 ans. Après 14 ans de mariage et la naissance de la petite Marion, il divorce de sa deuxième femme Annick, séparation qu'il ne commente pas. S'il se passionne pour les potins et la vie intime des célébrités, pas question de parler de la sienne. Personne ne sait rien de sa famille, de son passé, des blessures et des coups reçus. Il va garder secrète l'histoire de son premier enfant, son fils Michel. Il avait longtemps espéré que ce fils lui ressemble et reprenne le flambeau. Il était son successeur naturel. Un accident de voiture dans lequel Michel sera très grièvement blessé changera la donne. L'auteur des SAS restera alors un père lointain. Il ne parlait jamais de ses enfants alors qu'il voyait les miens. Il ne rentrait jamais dans l'intime, dira le compositeur Marc Serron, à qui il avait demandé d'écrire une musique pour le film Brigade mondaine, inspiré de l'une de ses collections. Gérard de Villiers, dévoré par ses personnages, condamné à une cavale permanente autour du monde, ne supporte pas d'être seul. Après Annick, c'est Marie-Christine qui entre dans sa vie. Il l'épouse en 1982. Le mariage tient 6 ans. Comme Annick, Marie-Christine sort brisée de cette union. « J'ai eu pendant quelques années une vie que personne n'a eue, mais le prix à payer a été trop cher. Difficile de refaire sa vie quand on a été blessé de la sorte », confiera Marie-Christine, décrivant un mari obsédé par sa propre réussite. Elle ajoutera « Il voulait juste qu'on parle de lui tout le temps. Je n'ai jamais pu comprendre qui il était. » C'est très dur d'être amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une quatrième épouse, Christine, s'installera alors, avenue Foch. Gérard de Villiers vieillit, mais fait comme si les années n'avaient pas de prise sur lui. Statue du commandeur insensible aux changements d'époque et aux candidatons. Son horloge semble s'être arrêtée à la fin des années 70, quand la réussite et la richesse lui ont souri. 20 ans plus tard, De Villiers porte toujours beau, mais en apparence seulement. Il arrive que la lassitude s'empare de lui. J'ai le sentiment d'être enchaîné dans une mine d'or avec une pioche. Je suis enfermé, prisonnier de mon personnage, confie-t-il au journal Le Point. Malco a esclavagisé De Villiers et le fisc veut aussi le mettre à genoux. À force de flamber et péché mortel d'étaler sa richesse, Rolls et Villa à Saint-Trope, l'administration lui demande des comptes. Mauvaise passe et premier échec. Le film qu'il voulait, SAS à San Salvador, et pour lequel il a choisi toute l'équipe et sélectionné les acteurs et les actrices, est un bide retentissant. Et si Gérard De Villiers commençait en ce début des années 90 à être passé de mode? Plus belle chanson de Niagara, j'ai vu dans ce confidentiel Gérard De Villiers. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RTL.
RTL.
Dans un instant, retour de confidentiel sur RTL. Confidentiel Gérard De Villiers sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Passé la soixantaine, Gérard De Villiers n'a plus d'autre choix que de s'accrocher à Malco et à SAS. Même si les ventes baissent, il faut que le cœur de son héros continue à battre pour qu'il reste lui-même en vie. Et quoi de mieux pour rester dans la course quand on s'appelle Gérard De Villiers que d'essayer de séduire des filles qui ont 40 ans de moins que lui. Après 10 ans de vie commune, le quatrième mariage avec Christine craque. Mais cette fois, c'est tout l'empire SAS qui tremble. L'épouse, gérante des éditions De Villiers, est convoquée devant le tribunal de commerce pour un trou financier gigantesque qu'elle ignorait. Le début de la fin pour le roi Gérard. En 2006, il vend ses 500 mètres carrés du 46 avenue Foch et sa Rolls pour régler le fisc. Il loue désormais un appartement plus modeste au numéro 3 où il reconstitue son univers. Armes au mur et tableaux de femmes dénudées. Seule la villa de Saint-Tropez a échappé aux impôts. Ici, entre Massimo Gargia et Paul Lussulitzer, De Villiers fait comme si la vie d'avant continuait, alors que tout, pourtant, a déjà changé. À la Noël 2010, près de Montargis, juste après avoir bouclé un nouveau SAS, le maître des hirondelles, Gérard De Villiers quitte la route à bord de sa Jaguar, victime d'un AVC. Opéré en urgence. Convalescent, il se sert d'un déambulateur pour avancer. Si l'AVC ne l'a pas tué, un cancer de la vessie va lentement le ronger et le consumer. Gérard de Villiers emporte les stigmates, mais devant ses visiteurs, il fait comme si de rien n'était. Dans son sofa, c'est un homme seul qui voit s'éloigner un monde auquel il aimerait tant continuer à s'accrocher. Le 30 janvier 2013, il est soudain radieux. Il bombe le torse comme quand il avait 20 ans. Le New York Times lui accorde une pleine page, le célèbre comme un auteur à part entière. Les journaux français suivent, 50 ans qu'il attendait ça. L'écrivain n'est plus qu'une ombre, mais il est devenu, enfin, un fantôme respectable. Le 31 octobre 2013, Gérard de Villiers, 83 ans, rend son dernier souffle. Épuisé par les chimiothérapies, il avait 2 mois auparavant signé son 200e SAS, La Vengeance du Kremlin. Une blonde au pistolet d'or en couverture, son héros Malko y sombrait dans le coma, sans savoir que son père allait le suivre dans un éternel sommeil.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So
Adèle, Skyfall, un thème de James Bond qui va si bien à Gérard de Villiers dans ce confidentiel qui n'est pas terminé. On se retrouve tout de suite avec notre invité Benoît Franck Balm.
Dans un instant, retour de confidentiel sur RTL.
Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Benoît Franck Balm.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Gérard de Villiers, un personnage entre réalité et fiction que vous connaissez bien puisque vous aviez publié une biographie qui fait autorité chez Plon, livre qui s'appelle « Gérard de Villiers, son Altesse Sérénissime ». Benoît Franck Balm, pourquoi a-t-il fallu finalement si longtemps à Gérard de Villiers pour qu'il soit dans la norme finalement, pour qu'il soit reconnu comme un écrivain plus intelligent, plus clairvoyant qu'il n'y paraît?
Je ne suis pas sûr qu'il ait été reconnu par tout le monde, mais effectivement, il y a eu cet adoubement avec le New York Times, vraiment à la toute fin de sa vie, qui a un petit peu provoqué un retour sur conscience des médias français. Il s'est retrouvé à faire la une du Monde Magazine, par exemple, ce qui était tout à fait inenvisageable durant les 30 années précédentes. Il était extrêmement sulfureux, hein, et je pense que ça a camouflé, ça a caché le fait que c'était un très brillant journaliste, quelqu'un de cultivé, avec un réseau extraordinaire. Mais le soufre qui avait autour de lui cachait tout ça et ses provocations aussi permanentes, évidemment.
Qu'il adorait d'ailleurs et il en jouait beaucoup. On a raconté dans ce confidentiel l'enfance, cette identité flottante. Hein. Est-ce que finalement Gérard de Villiers n'a pas été
été toute sa vie à la recherche de lui-même, on pourrait dire, comme les psys, mais à vouloir se prouver qu'il était quelqu'un.
Si, mais je pense que le nœud, sans faire de la psychologie de bazar, mais je pense que le nœud, c'est ça, hein, un enfant qui n'est pas reconnu à sa naissance, qui l'est 3 ans après par celle qu'on suppose être sa mère, parce que finalement, on ne le saura jamais. Mm-hmm. Un père, Jacques Deval, auteur de théâtre très, très réputé, mais qui ne le reconnaîtra jamais. Et je pense qu'il a eu un sentiment de revanche toute sa vie, et ce qui a donné quand même ce côté poussez-vous là que je m'y mette, et ce courage aussi pour mener la carrière qu'il a connue.
Il n'aimait pas beaucoup parler de lui-même. Il parlait beaucoup des autres, mais il n'aimait pas beaucoup parler de lui-même, et notamment de cette enfance, de ce passé. Il tenait ça comme un secret de famille, finalement.
Oui, mais c'est aussi pour ça que je me suis attelé à cette biographie, parce qu'il a fait une autobiographie, Gérard de Villiers, en 2005, qui s'appelle « Sabre au clair et pied au plancher ». Alors, elle est très marrante à lire, hein, pleine d'infos, mais il dit rien sur lui, finalement. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de ses emmerdes qui ont été multiples, hein, qu'elles soient fiscales, conjugales ou professionnelles. Et puis surtout, il ne parle pas de cette enfance
brisée.
Il parle de Jacques Deval comme son père, comme c'est évident, alors que ça ne l'est pas.
Et puis, il y a chez lui, alors il n'y a pas d'affect du tout dans les SAS, hein, Prince non. Malco, on ne peut pas dire que ce soit un grand romantique.
Non.
Mais il n'y a pas beaucoup d'affect non plus chez Gérard de Villiers. Il laisse rien paraître. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a cette armure permanente?
Il a cette armure permanente, mais ceux qui la connaissaient l'ont vu se fendre souvent, parce que c'était quelqu'un qui avait quand même des sentiments. C'était pas un robot, c'était pas un monstre. Il avait des amis très précieux, comme Renaud Girard, par exemple, comme à une époque...
Journaliste au Figaro.
Tout à fait, comme à une époque Paul Lanzmann, et même son frère Jacques, d'ailleurs, qui ont vu qui il était et qui savaient aller au-delà des provocations... permanent de Gérard de Villiers, pour voir que c'était quelqu'un qui pouvait avoir bon cœur, et même avec ses femmes, même si c'est pas toujours très bien conduit avec ses femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, il était quand même un soutien pour elles quand elles n'allaient pas bien. Donc non, évidemment, il faut pas s'arrêter à... En fait, je pense qu'il aurait voulu ça, lui aurait voulu qu'on le prenne pour quelqu'un d'infréquentable,
d'inflexible,
et qu'on n'avait pas cherché justement ce qu'il y avait derrière, parce qu'il était tellement pudique qu'il ne voulait pas qu'on fasse ça.
Benoît-Franck Balme, quels sont les ingrédients qui ont fait le succès de SAS, à part les couvertures de filles dénudées?
Oui, alors ça, c'est encore une fois, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on s'imagine, pour les gens qui ne connaissent pas SAS, que c'est des trucs de cul, en fait. Hein. Moi, c'est ouais. Ce qu'on m'a dit souvent, pourquoi tu as écrit un livre sur quelqu'un qui a fait ça.
Qui émoustillait les adolescents et leur papa.
Voilà, il y a la couverture avec la nana, avec le flingue à la main, et puis il y a ces syndicales, hein, 3 scènes érotiques, voire pornographiques, hein, dans le livre. Après, vous les enlevez, le récit se tient totalement, hein, elles servent à peu près à rien, ces scènes-là, à part à tirer le chaland. Puis surtout, ce qui a fait le succès de la série, outre une écriture tout à fait respectable et enlevée, ça cite très facilement SAS, mais au fur et à mesure, c'était ces informations qui étaient extrêmement précieuses. Et il y avait sous ce vernis un peu putassier, on peut dire, il y avait des informations extrêmement précises, profondes, et ça, le lecteur le sentait. Et c'est ce que je dis dans le livre, à la fin, c'était une sorte de Madame Irma du renseignement, Gérard de Villiers.
C'est-à-dire alors, c'est vrai ça ou faux? Parce que ça, c'est la grande légende de Gérard de Villiers. On le découvre finalement comme quasiment un agent de renseignement, un James Bond au petit pied, si je puis dire.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende, ou il avait vraiment ses entrées dans les services de renseignement auprès des grands patrons du renseignement?
Ah, mais c'est totalement vrai. Ce qui est faux, c'est que c'était pas un espion. Il menait pas des actions sur le terrain, bien sûr. Par contre, c'était ce qu'on appelle un honorable correspondant. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il a glané des informations sur le terrain. Et comme c'était un patriote, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça, on peut pas lui enlever. C'était un vrai patriote. Il aimait son pays. Il ramenait ses informations au service de renseignement. Sans problème. Et comme dans sa vie, finalement, il n'y avait que son métier, on peut dire, hein, c'est vrai que sa vie privée était quand même réduite au minimum, il se consacrait corps et âme à son métier et il faisait ça extrêmement bien. Il avait un réseau dans toutes les ambassades françaises à l'étranger hallucinant. Ensuite, il a eu son réseau à la DGSE, enfin au SDS avant, et ensuite à la DGSE. Quand il a épousé Christine de Villiers, il a découvert le monde, il a découvert l'armée, il a eu toutes ses entrées aussi comme ça. Donc, il était extrêmement bien renseigné et ça bluffait absolument tout le monde.
Mm-hmm. Est-ce que il fréquentait, on l'a dit, Alex Alexandre de Maranges, Philippe Rondeau, ce sont des grands noms du renseignement. Qu'est-ce qui se passait au cours de ces dîners? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il le racontait?
Non, ça, il le racontait pas trop, mais moi, j'ai interviewé Philippe Bouvard pour le livre, qui était un grand ami de Gérard de Villiers. À la fin, ils ont fini par se brouiller. Il raconte dans le livre qu'une fois, il va à la piscine, Bouvard Mortier, donc à la DGSE, enfin, l'ancienne DGSE, et il dîne avec Alexandre de Maranges, qui lui confie effectivement que de Villiers vient régulièrement les voir, que c'est un honorable correspondant, qui leur ramène des informations. conversation. Ensuite, ce qui se disait dans ces dîners-là, ça, je ne le sais pas, non.
Vous disiez que Gérard de Villiers est un homme qui, finalement, n'a vécu que pour son travail. On a le sentiment que c'est un homme éminemment seul, finalement, très solitaire et qui va mourir seul, on peut le dire.
Oui, c'est triste, hein, c'est triste parce qu'effectivement, son enterrement était assez triste. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. On se demande pourquoi ces personnes étaient là. Christine de Villiers, qui était sa dernière femme, il n'a jamais divorcé d'elle, même s'ils étaient séparés, et qui était vraiment quelqu'un qu'il aimait sincèrement, qui n'était pas présente parce qu'il y a des gens qu'elle ne voulait pas voir là-bas. Mmh. Et il y a beaucoup de gens très intéressés autour de lui jusqu'au bout parce qu'il était célèbre et riche, malgré ses ennuis.
Avec le fisc.
Et donc, c'était un petit peu pathétique sur la fin. Il était entouré par une sorte de clique mondaine, mais pas mondaine, très chic. Hein. Ça allait de Massimo Gargia à Michael Vendetta, vous voyez.
Un peu dans le bling-bling.
C'était bling-bling, c'était assez vulgaire. Et puis, il y avait ces photos dans la chronique mondaine, dans Ici Paris, où on voyait ce vieillard chenu entouré de bimbo. On se demandait un peu ce qu'il faisait là, mais lui, il était, je pense, content d'être là, de se sentir encore un petit peu en vie jusqu'au bout. Quoi.
Mais ça l'amusait. C'est là encore une provocation, parce que...
Je pense que c'était une provocation, mais je pense que ça l'amusait parce que, comme vous l'avez dit, il était seul. Et finalement, s'il ne se rendait pas dans ce genre de soirée, il était seul chez lui à taper sur sa machine à écrire. Quoi. Il avait très peu d'amis jusqu'au bout. Il en restait, je pense, 2-3 autour de lui, mais c'est pas beaucoup.
Pas beaucoup. Gérard de Villiers, sûrement pas aimé par tout le monde et même détesté. Notamment, il y a une chanteuse, Sheila, qui a beaucoup souffert de ses attaques.
Ça peut se comprendre. Ça, c'est la grande époque de France Dimanche, où effectivement.
Parce qu'il a vraiment inventé une histoire.
Oui, il l'a rencontrée alors qu'elle suivait un traitement hormonal, donc c'était dans les années 60, parce qu'elle avait un petit problème de santé. Et elle lui dit à un moment, assez maladroitement, avec ces traitements, je risque de devenir un homme. Elle le dit en rigolant. Mmh. Et évidemment,
On connaît la suite.
C'est pas seulement de sa faute, hein, c'est aussi la rédaction de France Dimanche à l'époque. Et ils ont titré Sheila devient un homme. Et elle était toute jeune, donc ça l'a complètement brisée à l'époque, et ça peut se comprendre.
Quel est aujourd'hui, Benoît Franck Balm, l'héritage de Gérard de Villiers? Est-ce que déjà il est le représentant d'une époque révolue, ça on peut le dire?
Oui, ça, il est représentant d'une époque révolue, et beaucoup sont contents qu'elle soit révolue. Mais déjà, si on veut avoir une idée assez précise de la géopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle, on lit les SAS, hein, c'est... Tout est traité, tous les terrains de jeu géopolitiques sont traités, les personnages sont là, les informations sont là. Et je ne sais pas, si vous révisez le bac et que vous voulez réviser l'histoire du XXe siècle, vous pouvez lire quelques SAS et vous serez plutôt bien renseigné.
À ce point-là, vous disiez tout à l'heure que Gérard de Villiers, c'était une espèce de Madame Irma ou Monsieur Irma, comme on voudra. C'était vraiment un visionnaire?
Oui, il voyait vraiment arriver des coups. Hein, l'assassinat de Sadat, par exemple, en 81, ben, il avait prévu 10 mois avant dans un SAS. Et puis, c'est arrivé plusieurs fois qu'il prévoit comme ça des coups d'État, des choses qui devaient arriver. Donc, effectivement, s'il a été reconnu par le New York Times, c'est pas non plus un hasard. Hein, ils l'ont mis quand même en couverture à l'époque. C'est qu'effectivement, il avait ça en lui. Il avait ce réseau, cette intelligence et cette vision.
Personne n'a pris vraiment, Benoît Franck Balm, la relève de Gérard de Villiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un genre passé de mode. On pourrait plus faire ça aujourd'hui? Les SAS.
Moi, je pense que faire ce qu'il faisait, c'est impossible à refaire. Il est parti avec son réseau, Gérard de Villiers. Il n'a pas laissé un annuaire, des notes en disant faites ci, appelez machin et faites ceci. C'est impossible. Il avait tout dans la tête. Il a tout gardé. Ils ont envisagé à une époque de transmettre le bébé. Alors, on avait pensé à un moment à une femme un petit peu sexy, un auteur un petit peu sexy. Il a surtout pensé à Jean-Michel Karadec de Paris Match. Même Jean-Christophe Ruffin, paraît-il, a été contacté. Mais finalement, c'était infaisable. Il est parti avec ses secrets, avec son réseau. Et c'est pas plus mal. Finalement, il s'est arrêté à 200 SAS pile, c'est très bien. 50 ans, 200 SAS, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup Benoît Franck Balm pour vos confidences sur l'étonnant Gérard de Villiers. Merci à Justine Vigneault qui a préparé cette émission et à Philippe Duval qui l'a réalisée. Demain, même heure, je vous parlerai de l'inarrêtable et extravagant Elon Musk.